la définition de la fonction d'obstacle. Oui, hier soir. Oui, oui, c'est vrai, mais il y a eu un puncher, comme on dit en français. Oh, ça devait être au début de l'après-midi, je suppose. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai été effectivement averti qu'il y a eu un... Enfin, ce séminaire n'a pas eu de chance. Sur ce sujet, c'est le dernier, oui. Oui, oui. Alors, on restera peut-être un peu plus tard, si vous voulez. Oui, enfin, d'ailleurs, hier, nous avons surtout repris les conclusions des analyses de la semaine dernière. Et puis, finalement, nous allons nous borner ou nous restreindre à essayer de terminer le chapitre 22. Les textes que vous avez sont suffisamment clairs par eux-mêmes pour que vous puissiez en profiter d'autre part. Et en particulier, pour gagner du temps, je ne vous donnerai pas trop de renseignements sur les références d'érudition, puisque vous les avez en bas de page. C'est une édition du Rav Kapar qui a été extrêmement bien faite. Par conséquent, vous ne pourrez pas vous-même vous référer au texte de référence. Comment ? Ah, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Oui, alors je disais que nous étions arrivés à peu près à cette hauteur du texte, à la page 323, avant la fin de la dernière phrase de cette fin de paragraphe. Et nous étions arrivés à la définition du terme du mot Satan. Je vous rappelle qu'en hébreu, il ne s'agit pas d'un nom propre, donc on ne peut pas traduire Satan dans la perspective de quelqu'un qui serait indépendant, comment dit-on, disons indépendant de la volonté de Dieu elle-même. C'est une des réalités du monde de la création. Nous aurons dans le paragraphe suivant plus de détails d'après des citations de la Gemara. Mais dans tous les cas, il s'agit en hébreu du terme de ha-satan, la réalité qui s'appelle l'obstacle, pour commencer par traduire le plus littéralement. Et j'avais donné une ou deux illustrations de cette fonction d'obstacle. C'est, d'après les exemples que nous avons vus hier, je vous le rappelle très, très brièvement, le fait que dans son retour de Midian, en Égypte, Moïse se trouve être, d'une certaine manière, selon ce que le texte dit littéralement, agressé par Dieu lui-même et avec risque de mort. Et nous avons vu que si Moïse ne surmontait pas cette épreuve, cela signifiait fondamentalement qu'il n'était pas Moïse. C'était une épreuve pour mettre en évidence si Moïse est Moïse ou non. Et l'obstacle à l'échec. Celui qui pourrait réussir, mais se trouve dans une situation au niveau de laquelle il risquerait d'échouer et de fixer un échec, de le figer dans l'état où il se trouve, ou si vous voulez, pour employer les termes que nous avons déjà vus, une approximation, et l'approximation de la vérité est toujours l'échec le plus grave, parce qu'il est précisément l'échec de la plus grande proximité. Et donc, si Moïse... Les causes immédiates de cette agression de Dieu, si j'ose dire, de cette intervention de Dieu, c'est que Moïse n'avait pas fait circoncire son fils, né à Midian, et c'est l'intervention de Tsipora, la mère, sa femme, qui va sauver Moïse. Et c'est donc un obstacle qui met à l'épreuve, et par conséquent, qui contient des épreuves, et des souffrances, puisque être mis à l'épreuve, c'est en soi une épreuve dans le deuxième sens. L'épreuve, le sens d'épreuve comme souffrance. Le deuxième exemple, c'est la stérilité apparente des mères d'Israël tant que, en tant que matrice, elles ne sont pas arrivées au stade tel où la mutation d'engendrement qui doit apparaître serait réussie. Et là encore, cette catégorie de l'obstacle joue. Alors, bien entendu, tout ce qui se passe à travers le déroulement de l'histoire du monde et dans la mesure où cela a un sens important et sera imputé à Dieu comme sujet ultime de l'histoire du monde qu'il a créé, Et en particulier, dans ces deux exemples que je viens de citer, le sujet de l'épreuve, en fin de compte, c'est Dieu, mais en tant que créateur. Si vous voulez, en tant que cause première, non pas en tant que cause immédiate. C'est la précision que Maïmonide veut nous faire comprendre dans ce paragraphe. Lorsque nous disons que les épreuves de Job que lui inflige le Satan viennent de Dieu, c'est vrai, mais d'une certaine manière seulement. En tant que le monde que Dieu a créé contient ces éventualités. Mais ce n'est pas directement, comme cause immédiate, la volonté de Dieu qui cause la souffrance que Job éprouve dans l'épreuve. Et Maïmonide nous avait obligé de prêter attention à ce qui met en évidence. Le Satan ne fait pas partie du conseil des anges, selon l'analyse des versets que nous avons déjà vus hier. Alors cette fonction d'obstacle est à découvrir, elle va être nommée d'autres noms dans le paragraphe suivant, mais chaque fois que le texte de la Bible en hébreu dit « Ha-Satan », il faut donc découvrir cette catégorie qui a été familière à la conscience hébraïque, mais qui, traduite dans le terme de « Satan », l'anti-Dieu, le diable, dans le registre chrétien en particulier, a pris un tout autre sens. Je pense que c'est suffisamment clair, mais si ce n'est pas assez clair, je préfère quand même prendre du temps, si vous avez une question à poser là-dessus, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion malgré l'analogie du terme. Ha-Satan n'a rien à voir avec Satan. Je sais qu'il existe énormément d'ouvrages, et en particulier les théologiens italiens contemporains se sont beaucoup préoccupés du problème de Satan en langage chrétien, et ils discutent très sérieusement de savoir si Satan existe ou pas. C'est une question extrêmement importante. Mais c'est une toute autre catégorie que nous avons ici. Ah, Satan, le fait de découvrir que dans la réalité du monde, dans les structures, les lois, les catégories qui régissent le monde, il y a une catégorie de l'obstacle auquel se heurte le tzaddik en particulier. C'est-à-dire, encore une fois, celui qui pourrait réussir le projet du Créateur, mais qui par, disons, une sorte d'essoufflement d'être, risque de se figer dans une certaine approximation, alors il se heurte à un obstacle qui va l'obliger à changer. Et cette épreuve, dans le premier sens, test, est donc aussi une épreuve dans le second sens, c'est-à-dire souffrance. Donc je pense que là, nous sommes arrivés à l'éclaircissement d'un point extrêmement important. Maïmonide voulait nous faire comprendre que ces épreuves de Job, entendues comme venant de Dieu directement, pouvaient paraître comme arbitraires, incompréhensibles, tragiques. Elles sont évidemment gratuites, puisque Job est tzaddique, mais Job ne comprend pas ces épreuves, parce qu'il, lui, n'est pas Talmid Chacham, et il croit que ce sont des épreuves irrémédiables. De cela, nous avons parlé déjà suffisamment dans les deux cours précédents. Et puis, la deuxième remarque, c'est que ces épreuves ne viennent pas directement de Dieu, elles viennent du fonctionnement du monde que Dieu a créé. Donc, ce n'est que d'une certaine manière de parler qu'il faut établir le fait que c'est Dieu qui éprouve Job. En réalité, c'est le Satan, et cela vient de Job lui-même. C'est bien parce que Job est ce qu'il est qu'il se heurte à cet obstacle. Et donc, il faut s'attendre à ce que ce soit une dimension qui fait partie de la destinée de chacun. Puisque nous sommes dans le monde où Job vit. Lorsque le Tanakh nous décrit le monde de Job, c'est notre monde qu'il décrit. Le monde que Dieu a créé. Est-ce que c'est suffisamment clair jusque-là? Oui? On peut donc avancer. Eh bien, nous prendrons le texte à la phrase suivante. Mais dès le début de la première ligne, Verod et aussi, jusque-là Maïmonide avait expliqué que c'est intentionnellement que le récit nous indique que Job va être éprouvé de toutes des différentes sortes d'épreuves qui ont pour objectif de dévoiler s'il garde confiance ou pas. Certains hommes perdent confiance dès qu'ils sont atteints dans leur bien, d'autres gardent cette confiance s'ils sont atteints dans leur bien, mais la perdent s'ils sont atteints dans des affections familiales. D'autres encore gardent leur confiance même à ce niveau, mais la perdent s'ils sont atteints corporellement. Et Job est éprouvé de ces trois niveaux, à ces trois niveaux d'épreuve, et garde encore confiance. Vérod, mi plae à machalazé, et aussi des choses étonnantes que nous donne cet enseignement par analogie, par comparaison, ce machal, cet apologue, si vous voulez, qui nous enseigne l'histoire de Job, chez vous, car chez Riskir, chote tout à Satan baaretz dafka. Le texte parle du domaine qui est propre au Satan et le situe uniquement sur terre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, il ne fait pas partie du conseil des anges qui, eux, véhiculent la volonté directe de Dieu lorsqu'il intervient dans l'histoire du monde. Ve'asiyato ma'asim eleh, bier she'u manuar min ishtalet al nefesh. Et lorsque le texte nous décrit l'intervention et l'action du Satan contre Job, le texte dit clairement qu'il ne peut pas porter atteinte à son nefesh, à sa personne, à son être même. Ve'she'u nitanlo shilton al kol ha'devarim halalu ha'artziim, et que le Satan ne dispose de sa capacité d'intervention, si vous voulez, il n'est cholet, c'est-à-dire il ne peut dominer que les biens terrestres, devarim ha'artziim, les choses terrestres. Ve'uvdal beno le ben ha'nefesh, et il est séparé. Dieu met une séparation entre le Satan et le nefesh de chacun, c'est-à-dire le quelqu'un que chacun est, la personne de chacun. Elle ne peut pas être atteinte par le Satan. Ve'umro, et c'est ce que le texte dit, ach et nafsho shemor. Tu peux lui faire